Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Émission très geek aujourd'hui, en Asialogie geek.
D'accord, ok.
Et un peu nostalgique, hein, puisque nous allons nous plonger dans l'histoire des jeux vidéo et nous poser aussi la question sur la violence qu'ils induiraient.
Ah, d'accord.
Voilà. Et pour compléter cette thématique, Didier, bah, tu vas nous raconter l'histoire des nouilles instantanées en cas incontournable des soirées et des salles de jeux, mais pas que,
aussi, oui,
vu la super recette que tu vas nous proposer.
On va essayer, oui. Bon, alors avant de partir vers le culinaire, on va d'abord partir sur les jeux vidéo, comme tu l'as annoncé.
Oui.
Et en fait, bah, commençons par le premier, quoi. L'histoire, s'il te plaît, Corinne.
Oui. Alors, l'histoire des jeux vidéo, bah, on sait qu'elle est relativement récente hein, dans l'histoire des nouvelles technologies.
C'est sûr qu'on n'est pas parti dans les empires d'il y a 3000 ans.
Non, c'est très très récent. Mais elle est extrêmement riche au travers de ces innovations qui se sont faites très rapidement. Alors, ça a commencé dans les années 50 quand même.
On ne penserait pas forcément.
Voilà, les années 50, lors d'expériences informatiques expérimentales, et bah pour devenir ce que l'on sait aujourd'hui, des univers virtuels complexes, avec des graphismes d'une qualité proche des visuels du cinéma.
Oui, bien sûr.
Et puis, bah, son industrie est l'une des industries culturelles les plus importantes et florissantes du monde.
Oui, ça, je suis pas surpris.
Savoir. Même s'il y a des hauts et des bas,
bien sûr.
Ça marche très bien. Alors, les jeux vidéo sont nés dans le contexte de la recherche scientifique et universitaire, à l'époque où les ordinateurs étaient rares, très coûteux et utilisé pour les calculs scientifiques.
Oui, c'est ça, qu'il fallait 3 pièces pour les mettre dedans, donc forcément, ok.
Oui. Alors, mais pour changer de leurs très sérieux travaux, bah, les chercheurs, ils sont souvent très facétieux, farceurs,
Ils ont bien le droit, un peu de temps en temps.
Ils ont besoin de souffler. Alors, ont commencé à expérimenter des programmes interactifs.
Mm-hmm.
Et le premier jeu informatique est probablement Oxo, un jeu de morpion qui a été créé en 1952 par le chercheur britannique Alexander Douglas de l'université de Cambridge. Et puis, bah, en 1958, le physicien, donc c'est pas des rigolos, hein. William Higginbotham qui va développer Tennis for Two, où deux joueurs peuvent simuler un match de tennis.
D'accord.
Alors ce projet était seulement conçu pour divertir les visiteurs d'un laboratoire, mais ça démontrait déjà le potentiel ludique de l'informatique.
Bien sûr.
Alors ensuite, en 62, apparaît un jeu de vaisseau spatial qui sera fondamental et qui évoluera dans l'histoire du jeu vidéo, c'est Spaceware.
Ah oui.
Créé par Steve Roussel à l'Institut de technologie du Massachusetts. Et ce jeu introduisait plusieurs concepts, compétition et interaction dynamique.
D'accord. Bon, alors Corinne, j'en suis un petit peu ravie, mais très peu ont pu connaître ces jeux, en tout cas pas moi.
Oui.
À partir
moi non
de
plus.
Oui, pardon. Est née véritablement l'industrie des jeux vidéo qui nous sont un peu plus familiers.
Alors ça va démarrer aux États-Unis en 1972 avec Nolan Bushnell, un des acteurs majeurs puisqu'il a fondé avec Ted Dabney la société Atari.
Ça me parle, oui.
Voilà. Et c'est cette année-là que sortira le jeu d'arcade que beaucoup connaissent, le Pong, avec une simulation simplifiée de tennis de table.
Ah, simplifiée, oui.
Et le succès a été immédiat dans les bars et les salles de jeu.
Ça ne m'étonne pas, oui. Alors, en tout cas, moi, j'ai opéré là-dessus.
Moi aussi.
Voilà.
Moi aussi.
Oui, bon.
Alors, je l'avoue. Les premières consoles domestiques vont apparaître en 1972 avec la Magnavox Odyssey, inventée par Ralph Baer.
Ça, je connais pas.
Qui sera la première console commerciale qui permettait de jouer directement sur la télévision familiale.
D'accord.
Mais la technologie était encore bien sommaire, avec des graphismes simples, composés de formes géométriques basiques, et le temps de jeu était très court.
Mmh.
Alors, la fin des années 70 et le début des années 80 sont considérés comme l'âge d'or des salles de jeux d'arcade.
D'accord.
Des jeux d'action simples et répétitifs basés sur les réflexes.
Mmh.
Alors, plusieurs jeux emblématiques sont apparus durant cette période.
D'accord.
Alors, en 78, la société japonaise Taito publie Space Invaders.
Eh oui.
Et ça, on le connaît bien.
J'étais jeune, mais je connais.
Dans les bars. Créé par Tomohiro Nishikado.
D'accord.
Un jeu qui a été un phénomène culturel mondial.
Clairement.
Et en 80, c'était le toujours iconique Pac-Man.
Eh oui.
créé par Toru Iwatani de la société Namco, connue aussi. Et Pac-Man, c'est l'un des symboles les plus célèbres du jeu vidéo.
C'est ça. Et voilà, ça va
rappeler. Qui n'a pas joué à Pac-Man et qui ne joue pas à Pac-Man s'il en a l'occasion.
C'est ça.
Alors en 1981 apparaît également Donkey Kong.
Eh oui.
Développé par Shigeru Miyamoto pour Nintendo. Alors ça, on connaît encore
aussi,
mieux.
On en a déjà parlé d'ailleurs.
Et ce jeu, tout à fait, introduit le personnage de Mario et popularise le genre du jeu de plateforme. Alors le jeu de plateforme, c'est quoi ? Mm-hmm. C'est un jeu dans lequel le joueur doit diriger un personnage dans un temps limité à travers un parcours semé d'embûches, d'objets à collecter et d'ennemis à vaincre jusqu'au dernier niveau.
D'accord.
C'est trop mignon quand même,
c'est
Didier, ça. Merci. Hein.
C'est donc
un petit coup de nostalgie.
Ouais, certains seront frappés de nostalgie en écoutant ça, sûrement.
Oui.
Alors, du coup, il y a eu la crise des jeux vidéo après, dans les années 80.
Oui.
Mais comment ils ont survécu ?
Malgré la croissance rapide du marché, cette industrie a connu une crise majeure effectivement en 83, surtout aux États-Unis.
D'accord.
Plusieurs facteurs, parce que c'était d'abord les États-Unis avant d'être le Japon.
Oui.
Plusieurs facteurs expliquent cette chute, la saturation du marché, la baisse de qualité des jeux et des supports et trop de concurrence des ordinateurs personnels.
Uh-huh.
Alors de nombreuses entreprises américaines ont fait faillite.
Okay.
Mais il y aura rapidement une relance du marché venue du Japon.
D'accord.
Avec Nintendo, qui lancera en 1983 la console Nintendo Entertainment System,
la NES.
Et la fameuse NES qui a introduit des standards de qualité stricts et des jeux devenus légendaires, Super Mario Bros.
Oui, c'est encore légendaire puisqu'il y a peu de temps, un film est sorti. Et
exactement,
donc,
c'est toujours légendaire.
C'est toujours.
Et aussi avec Sega, qui sera également un acteur important du marché, avec des consoles concurrentes. Mmh. Et on arrive donc à l'âge d'or des consoles, pourvues de cartes mémoire, parce qu'au début, il n'y en avait pas.
Bien sûr.
C'était quand même galère. Avec des cartouches interchangeables de jeux devenus célèbres, comme un que j'adore.
Mmh.
Je ne suis pas la seule, c'est La Légende de Zelda
bien sûr.
Nintendo. Et Sonic pour Sega, avec des graphismes très détaillés et une très bonne qualité sonore.
D'accord.
Alors la cinquième génération de consoles, entre 1993 et 2001, sera marquée par les graphismes en 3D et l'utilisation des CD-ROM pour stocker les jeux.
D'accord.
Et la console la plus vendue de cette période, on la connaît bien. C'est PlayStation, lancée en 1994 par Sony, avec des titres célèbres comme Final Fantasy, Metal Gear Solid, plus narratif et cinématographique. Il y en a bien d'autres, bien sûr, je ne les citerai pas tous.
Oui, je comprends bien.
Je propose une pause musicale d'un jeu dont je vais en parler plus tard, mais c'est une bande originale d'un jeu vidéo de 2025 qui a gagné plein de prix, c'est Clair Obscur.
Ouais.
Une des chansons de ce jeu merveilleux.
Magnifique bande sonore.
Français.
Et oui,
français.
D'autant plus, madame.
Dim, dam, dalilam, vacam, s'en va dans l'oubli éternam, et Gustav, dom guardiam, dili, 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 sera dolinom seram dim dim da 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 dim dim da 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 dim da di dam dim dim da 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 dim dim da 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 dim da di dam dans là-haut sera ravi les toits à se renoir griffera clair obscur tu trouveras des fées, clair obscur dans des hauts pins, tu trouveras sans aile, clair obscur trouble de râle, tu trouveras des fées, clair obscur dans des hauts pins, tu trouveras sans aile.
Alors voilà, je suppose que on va passer à la suite, mais moi, Clair Obscur, c'est bien, parce que c'est une spéciale dédicace pour mon fils qui m'a fait découvrir cette bonne sonore que j'adore beaucoup. Donc, je suppose que les consoles, après, petit à petit, on fait un virage avec Internet et les jeux en ligne qui sont apparus. On va vite, là, mais voilà, c'est
oui,
ce qui arrive.
Oui, on va vite, Didier.
Mais c'est assez logique.
Ça s'est accéléré. D'accord. Et effectivement, on est à la 6e génération, Didier.
Oui.
Internet et l'augmentation de la puissance graphique a tout changé.
D'accord.
Et la console la plus vendue de la 6e génération de l'époque et de l'histoire.
D'accord.
Et de l'histoire, c'est la PlayStation 2 de Sony.
D'accord.
Suivie de la Xbox de Microsoft. Et quand même de la Nintendo GameCube, qu'on connaît bien.
Oui, tout ça, on connaît.
Avec des jeux immersifs, avec des univers ouverts. Et la 7e génération, elle va de 2005 à 2013. Elle va introduire le jeu en ligne grand public, comme le fameux World of Warcraft. Excellent jeu. Et verra naître la Wii, très fameuse Wii de Nintendo. Et très gros succès auprès d'un public familial.
C'était fait pour ça.
Voilà. Et le jeu vidéo, il est en progrès technologique permanent, on peut le dire. Et aujourd'hui, on en est à la 9e génération, avec des jeux dématérialisés, avec des services en ligne, sur la PlayStation 5, la Xbox Series X et la Nintendo Switch.
D'accord.
Une console hybride qui peut être utilisée à la fois comme console portable et console de salon.
Ok. Mais bien, tu n'as pas parlé des consoles de poche et des consoles portables, parce que ça, je me souviens que ça faisait le plaisir des sapins de Noël de mes enfants.
Oui, non, je vais résumer leur histoire technologique qui est parallèle à celle des consoles de salon.
Okay.
Alors, les premières consoles portables apparaissent à partir de 1970.
D'accord.
Et n'étaient au départ dédiées qu'à un seul jeu.
Ah.
Voilà. Et c'est Nintendo qui a eu du succès avec les consoles Game & Watch.
D'accord.
Et puis, il y a eu les consoles à cartouches aussi.
Ouais, ça, je me souviens.
L'une des premières est la Microvision, lancée en 79 par la société Milton Bradley Company.
D'accord.
Mais la véritable révolution des consoles portables sera en 89 avec la Game Boy de Nintendo, deviendra avec le jeu Tetris, fourni avec un phénomène mondial à son autonomie, sa robustesse et son catalogue de jeux, et puis pour un coût relativement raisonnable. Alors, il y avait aussi bien sûr Atari et Sega, mais c'était un peu moins populaire à cause de leur consommation d'énergie élevée et aussi de leur prix qui était supérieur à Nintendo.
D'accord, okay.
Alors, en 2004 apparaîtront la Nintendo DS, très très connue aussi, qui introduisait deux innovations majeures, double écran, écran tactile, et puis il y a eu aussi la PSP, la PlayStation Portable, qui pouvait également lire des films et de la musique.
Alors, c'était top. Okay.
Mais petit à petit, avec l'essor des smartphones, les consoles portables traditionnelles vont perdre leur popularité et vont évoluer vers des formats hybrides comme la Nintendo Switch de 2017, qui peut être utilisée comme console de salon, comme je le disais, console portable.
D'accord. Voilà. Bon, alors, tu nous as beaucoup parlé de technologie, de jeux, tout ça. Mais quels sont les jeux et les personnages les plus célèbres maintenant, en dehors des consoles et du matériel?
Je vais avoir du mal à tous les citer.
Clair,
Alors, je suis désolée, c'est forcément subjectif.
Oui, tout à fait.
Alors, beaucoup sont devenus des icônes culturelles mondiales. Vais citer que les plus emblématiques, et encore, je sais que j'oublie des plus emblématiques.
Oui, mais c'est pas grave.
Bon, le plus célèbre, c'est Mario, comme tu disais,
bien
Didier,
sûr.
Un film sorti il n'y a pas longtemps. Donc, c'est la mascotte officielle de Nintendo, reconnaissable dans le monde entier, avec sa casquette rouge et sa moustache. Un autre personnage majeur, c'est Sonic, de Sega.
Oui, bien sûr.
Le hérisson bleu, le rival principal de Mario. Et puis, le troisième personnage incontournable, je dirais, c'est Link. Très beau personnage, héros de la série de La Légende
Zelda,
de Zelda. Alors, la première héroïne, et qui n'est pas des moindres, c'est Lara Croft.
Ah, c'est vrai.
D'une très bonne série, Tomb Raider.
D'accord.
Un autre personnage aussi, c'est Kratos, un protagoniste de la série God of War.
D'accord.
Connu pour sa force et son histoire tragique, inspirée de la mythologie.
Ok.
Et quant aux jeux les plus célèbres, c'est encore plus difficile, peut-être. Il y a Resident Evil, Final Fantasy, The Witcher, et puis tellement d'autres.
D'accord.
Alors, Tetris, le classique éternel. Alors, je citerai quand même, et tu en avais parlé, Black Myth Wukong, qui est quand même un très 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 beau jeu.
D'accord.
Il y a bien sûr GTA, Red Redemption, les Pokémon, Counter-Strike. Et je terminerai par Clair Obscur, Expédition 33.
Bien sûr.
Un jeu français qui a été sacré jeu vidéo de l'année.
C'est suffisamment rare pour pouvoir le dire.
Voilà. Lors des Game Awards 2025 à Los Angeles, une première historique pour un jeu français quand même.
D'accord.
Alors, Clair Obscur a remporté 9 trophées au total pour son scénario, son esthétique et son système de combat.
D'accord.
Alors aujourd'hui, bah, les jeux vidéo ne sont plus seulement un divertissement. Ouais. Ils sont une nouvelle forme d'art pour raconter des histoires. Et avec les avancées liées à l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, bah, l'histoire des jeux vidéo continue de s'écrire.
D'accord. Bon, alors, Corinne, une question cruciale. Est-ce que les jeux vidéo ont de l'influence sur la violence humaine ?
Éternelle question. Alors la question, c'est une des plus débattues en sciences humaines et sociales depuis les années 90.
Ouais.
Et les scientifiques ne donnent pas de vraies réponses, car les études diffèrent dans leur méthode, la population étudiée et leurs conclusions. Donc en fait, ils n'ont pas trouvé les critères qui permettent d'avoir des études fiables. Mmh. Alors de nombreux chercheurs ont tenté de mesurer si jouer à des jeux vidéo violents pouvait augmenter le comportement agressif ou violent dans la vie réelle. Alors, certains travaux ont conclu qu'il existait une association entre exposition à des jeux violents et certaines formes d'agressivité, comme des pensées agressives, des comportements compétitifs agressifs.
D'accord.
Mais ce sont des comportements éphémères observés juste après avoir joué ou pendant le jeu.
D'accord.
Alors, les résultats sont considérés comme biaisés, car les études prouvant un effet sont souvent plus souvent publiées que celles qui n'en trouvent pas.
Ouais, oui, forcément.
Donc c'est biaisé. Alors aucune étude scientifique n'a établi une causalité, et ça faut être clair, entre jeux vidéo violents et actes criminels ou violences graves dans la vie réelle. Mmh. Ce seraient d'autres facteurs qui sont bien plus importants. C'est l'environnement familial, l'éducation, le stress, les troubles psychologiques et l'accès aux armes qui joueraient un rôle bien plus déterminant dans les comportements violents.
Je ne suis pas surpris d'entendre
ça. Et beaucoup de chercheurs estiment que la question est mal posée si elle se limite à « est-ce que les jeux vidéo rendent violents ?»
Ouais.
Aujourd'hui, la science se concentre plutôt sur les mécanismes psychologiques et psychiatriques sous-jacents et les contextes sociaux et familiaux.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Bon, on écoute une pause musicale plus calme
Oui, bien sûr qu'on va écouter.
Pendant que l'eau boue pour nos nouilles instantanées.
Ah, c'est ça. Dore hodo yokatta deshou. Imada ni anata no koto wo ime ni miru. Wasureta mono wo tori ni kaeru you ni. Furubita omoide no hokori wo. 戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた言えずに隠してた暗い過去もあなたがいなきゃ永遠に暗いままきっと僕これ以上傷つくことなどありはしない
C'était Lemon, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est sympathique.
Chanson japonaise.
Voilà, juste le temps que la bouilloire se mette en action, c'était parfait, moi je trouve.
Voilà, parce que jouer, ça donne faim, ça on le sait bien.
Ah, c'est ça.
C'est bien connu, c'est d'ailleurs un problème. Hein,
ah oui.
Entre les chips et les nouilles instantanées.
D'accord.
Le coca, c'est.
Oui, enfin, oui, d'accord, bon, ça va peut-être pas. Vu qu'on ne bouge pas du canapé pour jouer, enfin, ou très peu.
Mais bon, on va parler donc de ramyeon.
Oui.
Ça, c'est le nom coréen des nouilles instantanées ou ramen.
OK.
Qui ont beaucoup de succès dans les salles de jeux en Asie ou chez soi devant son écran.
Exactement.
Alors, parle-nous des nouilles instantanées, Didier.
Alors, donc, l'eau, elle boue. On peut partir pour l'histoire des nouilles instantanées, comme celle des jeux vidéo. Et c'est un exemple remarquable, en fait, d'innovation. Aujourd'hui, consommée par des milliards de personnes chaque année, les nouilles instantanées sont associées à la rapidité, à la simplicité de préparation et son faible coût. Leur invention remonte au milieu du XXe siècle au Japon, après la Seconde Guerre mondiale. Le pays connaissait alors une pénurie alimentaire importante, le blé importé était devenu en fait un ingrédient essentiel dans l'alimentation dont la consommation était encouragée par le gouvernement.
Oui, il n'y avait plus de rizières.
Ce sont les longues files d'attente devant les stands de ramen qui ont inspiré l'entrepreneur japonais Momofuku Ando à trouver une solution pour préparer des nouilles rapidement chez soi.
Bah, quelle solution il a trouvé, Didier, pour faire ça et c'était en quelle année?
Alors là, on est en 1958. C'est là que Hondo va mettre au point les premières nouilles instantanées commercialisées sous le nom de Chicken Ramen. Ce produit était fabriqué par l'entreprise Missing Food, fondée par Hondo lui-même. L'innovation, en fait, résidait dans la technique de pré-cuisson et de frétir des nouilles, ce qui permettait ensuite de les réhydrater simplement avec de l'eau chaude. Puis, bah, grâce à ce procédé, le plat pouvait être préparé en quelques minutes seulement, ce qui était une vraie révolution en fait.
Oui.
Alors au début, les nouilles instantanées étaient plutôt coûteuses et étaient considérées comme un produit de luxe, mais elles auront rapidement du succès grâce à leur goût, leur facilité de préparation, puis leur longue durée de conservation aussi, c'était pratique.
Donc elles ont fini par devenir populaires dans les années
60. Bien sûr qu'elles le sont devenues. Oui, et leur consommation va augmenter fortement, ce qui entraîna d'autres entreprises à en produire. Alors une deuxième étape majeure, Corinne, surviendra en 1971 dans leur histoire. Lorsque Hondo va lancer un nouveau produit appelé les Cups Noodle. Contrairement aux versions précédentes, ces nouilles étaient vendues dans un récipient en polystyrène qui servait à la fois d'emballage et de bol. Ça, c'était la bonne idée. Il suffisait donc d'ajouter de l'eau chaude directement dans le contenant pour préparer son repas. Ça paraît rien aujourd'hui, mais c'est une innovation qui va en faciliter la consommation, notamment pour les travailleurs, les étudiants, les voyageurs. Enfin, on le voit bien aujourd'hui, c'est pratique. Et puis, entre les années 1970 et 1980, les nouilles instantanées vont se diffuser dans de nombreux pays d'Asie, notamment la Corée du Sud, en Chine et dans des pays d'Asie du Sud-Est. Chaque région va développer ses propres saveurs et ses recettes adaptées aux goûts locaux. Alors en Corée du Sud, par exemple, les fabricants vont concevoir des versions très très épicées qui correspondent aux préférences culinaires des pays. En Chine, le marché deviendra rapidement l'un des plus importants au monde, avec une grande diversité de marques et de saveurs. C'est à partir des années 1980 et 1990 que les nouilles instantanées vont se répandre en Europe et en Amérique du Nord.
D'accord, Didier. Oui, j'ai un truc à rajouter par rapport à la Chine.
Oui.
Pour ceux qui prendront le train en Chine, y a des espèces de samovars.
Oui, c'est ça, où on peut avoir de l'eau à disposition.
On a de l'eau chaude et donc il est de coutume
d'emmener
ces bols de nouilles qui sont en carton aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
C'est plus en polystyrène.
Oui, c'est mieux.
Et donc du coup, on peut emmener son repas facilement.
C'est vrai, c'est facile.
Nous, on mange des sandwichs et eux, et ce sont des nouilles.
C'est ça.
Voilà, et c'est vrai qu'il y a de l'eau chaude, il y a de l'eau chaude un peu partout.
Oui, j'avais vu ça effectivement.
Et en Corée, c'est pareil, tu as des magasins où il n'y a que des nouilles
et
de l'eau chaude.
D'accord.
Et tu te fais ton plat de nouilles.
Ça marche. Bon. Bon, alors nous en France, elles arrivent en fait, les nouilles instantanées vont arriver progressivement en France dans les années 1980, surtout grâce aux supermarchés qui commencent à importer des produits asiatiques. On en a déjà parlé, surtout grâce aux épiceries asiatiques des grandes villes. Plus tard, des marques internationales vont adapter les produits au goût européen, comme le Bolino de Nestlé.
Ça existe toujours. Hein.
Préparer le repas.
Ah, ça va rappeler quelque chose.
Un bon petit plat.
Aujourd'hui, il y a Bolino.
Bolino, Bolino.
Ouais, je vous passe toute la pub, parce que mais cette pub-là va
drôle.
Forcément rappeler certaines choses à certaines personnes. Ça a été un grand succès.
Ça existe toujours. Hein.
Oui, bien sûr qu'il y en a toujours.
Vu.
Donc, les Bolino de Nestlé, mais la France consomme beaucoup moins de nouilles instantanées que dans les pays d'Asie, pour des raisons liées à nos traditions culinaires, qui valorisent les plats cuisinés maison, les repas plus longs et structurés, avec entrée, plat, dessert, quoi. Donc, les nouilles instantanées sont perçues chez nous comme très industrielles et nous avons d'autres façons de manger rapidement et bon marché, comme tu l'as dit, avec les sandwichs, les quiches, les crêpes, etc., tous les petits plats que l'on peut se faire.
Alors, tu as des chiffres de consommation, Didier, des nouilles instantanées dans le monde ?
C'est parlant, ça. C'est assez parlant parce que du coup, la consommation annuelle en Chine, attention, plus de 100 portions par personne. C'est énorme.
Oui.
En Corée du Sud, pardon, c'est 70 à 80 portions.
Un petit peu moins.
Ouais. Au Japon, enfin sur une année quand même, 40 à 50 portions. Et en France, attention, roulement de tambour, c'est de 3 à 5 portions. Donc on est loin derrière.
Oui, encore, moi je dois faire monter la moyenne.
C'est ça. Pas moi.
Je pense.
Pas moi parce que c'est pas tout à fait sain quand même, je trouve. Mais bon, voilà. Il y a à redire, on y revient. Depuis quelques années, les ventes augmentent en France grâce à la popularité des ramen dans les restaurants, grâce aux tendances liées à la culture japonaise et coréenne qu'on connaît. japonais, elle apparaît fréquemment dans la culture populaire, notamment dans les films, les séries, les mangas, quoi.
Ah bah oui.
Donc bon, ça a une influence.
Oui, ça a une influence, tout à fait. Alors, les nouilles instantanées sont associées à la malbouffe, tu nous l'as dit.
Bah, un tout petit peu, oui. Les nutritionnistes soulignent que les produits peuvent souvent contenir beaucoup de sel, de matières grasses ou des additifs. Si vous lisez les étiquettes, bon, c'est pas toujours joyeux. Et constituent pas un repas équilibré si on les améliore pas. Alors, face aux critiques, les entreprises ont commencé à développer des versions plus saines, hein, moins de sel, avec des ingrédients plus naturels. De nouvelles variantes apparaissent également à base de nouilles non frites. Forcément, ça joue avec des recettes végétariennes ou à base de produits biologiques.
Ah oui, quand même, ça progresse.
Oui, ça progresse. Aujourd'hui, plus de 60 ans après leur création, les nouilles instantanées continuent d'évoluer et de s'adapter aux goûts et aux besoins des consommateurs. Alors, notez aussi que les nouilles instantanées jouent également un rôle important des situations d'urgence. Ça, c'est important. Grâce à leur facilité de transport et à leur durée de conservation, bah oui, c'est simple. Elles sont souvent utilisées dans l'aide humanitaire ou dans les crises alimentaires. Et Momofuku Ando est aujourd'hui reconnue comme une figure majeure de l'innovation alimentaire.
Oui, bah c'est vrai que c'est des repas chauds, en fait,
c'est
quand
ça.
Même. Hein, alors,
c'est simple, il faut que de l'eau chaude.
Nutritivement, pas qualitatif.
Non, mais ça rend service.
Mais ça rend service et ça cale la faim,
c'est ça, c'est
clair.
Ça. Et c'est facile à transporter, c'est peu...
C'est léger.
C'est, voilà, il y a tout ça.
Ça se casse pas.
Non, et puis juste de l'eau chaude, ça, c'est simple. Alors, en son honneur, justement, un musée appelé Cups Noodle Museum a été ouvert à Yokohama, au Japon, pour retracer l'histoire des nouilles instantanées et pour permettre aux visiteurs de créer leur propre recette.
C'est mérité, un musée pour ce monsieur, ça. Je trouve. Parce que moi, j'avoue que j'aime bien.
Ah, je crois savoir.
Et en parlant de recettes, bah, tu vas bien nous en donner une, Didier,
bien
quand même.
Sûr que je vais faire ça. Alors, les nouilles instantanées peuvent être transformées en plats plus élaborés. Il suffit de les réhydrater et de composer son plat avec ses propres ingrédients, comme les nouilles instantanées sautées aux légumes et à l'œuf. Alors, pour ça, un paquet de nouilles instantanées, un œuf, une cuillère à soupe d'huile, un oignon ou un oignon vert, une carotte râpée, des poivrons, brocolis ou petits pois, enfin c'est un peu au goût de tout le monde, sauce soja, huile de sésame, poivre. Alors la préparation, c'est simple. Vous faites cuire ou tremper les nouilles dans de l'eau pendant 2-3 minutes, puis vous les égouttez. Vous faites chauffer l'huile dans la poêle, vous ajoutez l'oignon coupé, puis les légumes coupés en lamelles, et puis vous les faites revenir. Ajoutez après les nouilles, la sauce soja et le poivre. On fait sauter le tout pendant 2 minutes. On ajoute l'œuf cuit selon ce qu'on aime. Hein. Et bien résultat, un plat simple, savoureux, en moins de 10 minutes. Bon,
et presque équilibré.
Voilà, presque, ouais. Retenir que les ramen coréennes sont considérées comme la meilleure du monde, mais elles sont plus piquantes. Attention au palais.
Oui, voilà. Mais on n'est pas obligé de rajouter le petit sachet.
On n'est pas obligé. Moi, je ne le fais jamais, par exemple.
Voilà. Bah, Didier, merci pour cette recette, parce que c'est quand même une super recette.
C'est rien,
authentique,
j'espère qu'on vous a ouvert l'appétit ce midi.
Bon, Asialogie, c'est fini, les amis. Oui. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Et bien sûr, nous retrouver le samedi matin à 9h30, le mercredi à 13h et sur toutes les plateformes. Et sur radioalpa.com.
Bien sûr.
Bien évidemment, podcast, rendez-vous jeudi prochain. Passez une bonne semaine.
Voilà, bonne semaine.
Prenez
à bientôt.
Soin de vous. À bientôt.